suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Et si la révolution, celle qui s'écrit avec un grand R, que ce soit celle de 1789 ou celle survenue il y a 100 ans tout juste en Russie et sur laquelle France Culture se penche tout le week-end, et si la révolution, donc l'idée même de révolution, son horizon comme son considérable poids historique était précisément ce qui, depuis, avait en fait empêché toute possibilité de révolution, c'est-à-dire toute véritable transformation. C'est à l'occasion de ce week-end spécial sur notre antenne la question que je vous propose de poser, profitant du passage à Paris de l'un des plus intéressants penseurs de la transformation, un théoricien social qui n'hésite pas, au-delà des diagnostics qu'il pose, à esquisser des propositions plus normatives et plus concrètes. Pour Eric Olin-Wright, professeur de sociologie à l'université de Wisconsin, ce n'est certainement pas par la voie du réformisme, désormais trop compromise avec le néolibéralisme, qu'il apparaît possible de sortir du capitalisme, mais pas davantage par celle de la révolution avec un grand R, cette révolution venue du haut qui semble encore faire fantasmer certains. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Et en deuxième partie de la suite dans les idées, puisque c'est désormais le principe de cette nouvelle formule de l'émission, c'est un romancier qui nous rejoindra, Éric Vuillard. Éric Vuillard à qui l'on doit un livre paru au printemps, L'Ordre du Jour, un livre ancré dans l'histoire, mais un autre paru quelques mois auparavant, il y a tout juste un an, titré 14 juillet, et qui nous faisait revivre à sa manière littéraire la Révolution française. Mais avant, nous commençons cette émission avec Eric Olin-Wright. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur de sociologie, je le disais, à l'université de Wisconsin. Vous avez été président de l'American Sociological Association. Vous êtes l'une des grandes figures de la gauche des sciences sociales américaines. Vous avez été l'un des chefs de file de ce qu'on a pu appeler à un moment le marxisme analytique. Vous allez peut-être nous préciser si vous vous reconnaissez dans cette étiquette. Mais comme je le rappelais en ouvrant cette émission, elle s'inscrit dans ce grand week-end autour des 100 ans de la Révolution d'octobre. Et je voudrais commencer par là, Eric Olin-Wright, parce que le livre que vous publiez ces jours-ci à La Découverte, Utopie réelle, c'est la première fois que vous êtes traduit en français dans la collection L'Horizon des possibles, pose et repose cette question de la révolution. Alors, est-ce que vous partagez ce constat introductif, cette idée que, finalement, cet événement historique d'octobre a pesé tellement lourd sur l'histoire du XXe siècle qu'il a rendu presque impraticable l'idée d'une révolution entendue comme ça, une révolution par le haut, Eric Olin-Wright?
I think we need to distinguish between the idea of revolution as a goal.
Je pense qu'il faut faire la différence entre l'idée de révolution en tant que but et en tant que moyen. En tant que but signifie que nous avons une vision alternative au monde tel qu'il est, qui est dans ses fondements même totalement différente par rapport à certaines valeurs, la démocratie, l'égalité, la solidarité, un monde alternatif. Un autre monde est possible. Ça, c'est une idée révolutionnaire. Mais la révolution en tant que moyen, le seul moyen d'arriver de d'ici à là est d'avoir une rupture, c'est-à-dire une cassure dans le système existant. Je suis très sceptique en ce qui concerne les possibilités des ruptures. Ce n'est pas que je suis opposé à l'idée de rupture par principe, non. Mais les ruptures ne proposent pas le type de monde que l'on aimerait avoir. Il y a dans cette chanson, nous allons construire un monde sur les cendres de ce monde. Ça signifie qu'on peut brûler le monde tel qu'il est, une idée très révolutionnaire, et construire un nouveau monde. Ma vision, c'est qu'on l'a vu au cours du XXe siècle, on peut effectivement brûler l'ancien monde. Le problème, c'est que le nouveau monde qui est construit sur les cendres n'est pas celui auquel on pensait avant la Révolution. Donc, moi, je me tiens à cette idée de transformation, le but de la Révolution. Mais je cherche une façon alternative d'imaginer comment on pourrait y arriver sans rupture. Comment est-ce qu'on peut transformer le monde de façon fondamentale sans avoir un moment décisif de rupture?
Alors, je le rappelais, vous êtes sociologue, vous êtes un théoricien du social, vous êtes curieux des événements d'actualité. Ce livre, vous l'avez écrit en pleine crise du capitalisme financiarisé de 2008. Et puis depuis, on le voit dans la préface pour cette édition française, vous êtes intéressé à des mouvements de contestation qui ont vu le jour sur les places à différents lieux du monde. Donc vous êtes attentif au présent, mais vous êtes aussi attentif au passé, sans être un historien. Et je voudrais qu'un instant, on reste quand même sur cette révolution d'octobre, sur ces 100 ans. Quelle lecture de sociologue vous faites sur cet événement historique passé qu'a été la révolution russe, Eric Olin-Wright?
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est les leçons d'octobre 1917?
What are the 1917, lessons? Quelles en sont les leçons?
La
première, c'est que les êtres humains ont une capacité d'imaginer un monde différent. Ils peuvent prendre le monde tel qu'il est, non pas comme une donnée de la nature, mais comme quelque chose que les hommes ont créé et peuvent transformer. Autre leçon, c'est que le processus de transformation lui-même affecte les conséquences de la transformation. Ce n'est pas simplement qu'en arrivant au pouvoir, on peut créer ce que l'on veut. La façon dont on arrive au pouvoir affecte ce que l'on est capable de construire par la suite. Ce qui se produit avec le type de rupture qu'on a vu en Russie dans la révolution d'octobre, ce qui se produit dans ce type-là de rupture, c'est que les forces sont déchaînées, qui sont extrêmement difficiles à contrôler par la suite. Et la seule solution au contexte immédiat de désordre et de violence et une réaction répressive venant du haut. Mais une telle répression tue les possibilités d'une société ouverte, libre, démocratique, tout comme on ne peut pas construire autre chose que cela. Et c'est pour cette raison que je pense que, non seulement à la révolution d'octobre, mais les expériences répétées, réitérées de cette transformation par une rupture, la leçon principale de ces expériences-là, c'est que si on veut une alternative qui soit démocratique, profondément démocratique, égalitaire en son sein et solidaire, on ne peut pas le faire. On ne peut pas y arriver à ce type de société par un moment de rupture. Il faut construire l'alternative d'une façon différente. Et c'est fondamentalement l'idée que j'essaye d'élaborer dans ce livre « Utopie réelle ».
Alors, utopie réelle, pour le coup, cette expression a de quoi surprendre. Comment une utopie peut-elle être réelle? C'est assez oxymorique de juxtaposer ces deux mots.
Oui, c'est un oxymoron et c'est évidemment que c'est une provocation de mettre ces deux mots ensemble. C'est une contradiction entre les deux termes, mais c'est une contradiction nécessaire. Oh, okay, I'll speak in English because it's easier for me.
Je reviens à l'anglais parce que c'est plus facile pour moi de développer mes idées.
I think both words are important.
Les deux termes sont importants.
They both need to be given serious attention.
On doit leur prêter une attention extrêmement sérieuse. Même s'ils sont en tension, l'utopie, la véritable utopie, incarne nos aspirations les plus fondamentales dans un monde où les êtres humains peuvent s'épanouir, où les valeurs de communauté, d'égalité, de démocratie peuvent se développer. C'est une aspiration utopique et l'aspiration doit être annoncée sans aucun embarras. Parfois, les intellectuels sentent que s'ils prononcent leurs valeurs trop fort, eh bien, qu'ils passeront pour des naïfs. Je crois que la grande crainte des intellectuels sophistiqués, c'est qu'ils apparaissent naïfs. Eh bien, nous devons nous engager à ces valeurs, aux côtés de ces valeurs, sans sentir d'embarras. Ça, c'est la partie utopique. Mais il est important aussi de ne jamais perdre de vue les problèmes compliqués et les compromis qu'il faut faire qui viennent de nos efforts pratiques pour réaliser ces valeurs. Et c'est là que la réalité arrive. C'est de là que vient la réalité de l'utopie. J'utilise le terme réel dans un double sens. Le premier, c'est d'être réaliste, c'est-à-dire de s'occuper des conséquences inattendues. Et le second sens est de chercher les aspects utopiques de ce qui se produit en fait dans le monde réel d'aujourd'hui. Pas simplement de penser à l'utopie comme dans un avenir distant, mais des façons dont c'est construit à l'intérieur des sociétés dans lesquelles nous vivons, de façon incomplète et partielle, et construire à partir de là, à partir de ces semences.
Alors, vous vous intéressez du coup à des expériences sociales variées, que ce soit des budgets participatifs, par exemple, ou des modes d'organisation politique qui se développent à des échelles différentes. Vous êtes attentif à ces expériences récentes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au-delà de la gauche partisane telle que représentée dans les parlements nationaux, on assiste depuis une dizaine ou une quinzaine d'années à un renouveau de la gauche à travers des initiatives peut-être moins ambitieuses, mais plus concrètes et plus efficaces, du coup?
These experiences are not that you refer to are not less ambitious.
Ces expériences auxquelles vous référez ne sont pas moins ambitieuses.
It's true that they are practical.
C'est vrai qu'elles sont pratiques, mais elles incarnent des valeurs et des aspirations qui sont très transformatrices. Vous parlez des budgets participatifs, mais il y a d'autres exemples.
One that I'm particularly fond of because it's very
familiar. J'en aime particulièrement un parce qu'il est familier. Et la plupart des gens n'y pense pas comme étant révolutionnaire. C'est Wikipédia.
Wikipédia
est une réussite humaine extraordinaire. Et avant qu'elle ne se produise, personne n'aurait pensé que cela soit possible. Si en 2000, quelqu'un vous avait dit, j'ai une proposition, on va prendre 700 000 personnes à travers le monde qui vont coopérer gratuitement pour écrire une encyclopédie qui, en une décennie, aurait 4 ou 5 millions d'entrées et qui serait de qualité suffisamment importante qu'elle détruirait un marché de 300 ans dans les encyclopédies. Impossible aujourd'hui de produire une encyclopédie, et ça sera fait par des contributions volontaires de gens qui vont éditer, revoir les entrées des autres. Et puis, ah oui, en passant, ça va être gratuit. Tout le monde aura accès à cette encyclopédie. C'est extraordinaire. C'est vraiment une réussite humaine étonnante. Et voilà l'idée clé. C'est que c'était impossible avant que cela ne soit fait. C'était impossible.
Et
dans son développement, il y a beaucoup de problèmes. C'est pas quelque chose de parfait. Mais c'est tellement mieux que ce que l'on pensait être possible. C'est en son centre. C'est pas simplement non-capitaliste, c'est anti-capitaliste. Ça incarne les principes opposés aux principes capitalistes. La collaboration est horizontale. Il y a très très peu de hiérarchie. C'est hors marché, etc. Mais il y a un autre aspect de Wikipédia. Comment est-ce que les gens ont accès à Wikipédia? Comment est-ce que ça se passe que quelqu'un qui est pauvre, qui ne peut pas se permettre d'acheter une encyclopédie, peut y avoir accès? Une des façons de le faire, c'est que les bibliothèques publiques à travers le monde fournissent des terminaux d'ordinateur. Donc, ce que nous avons en tant que collaboration entre l'État, qui fournit une façon non capitalistique pour que les gens aient accès à l'information, et Wikipédia, qui fournit une façon non capitaliste de fournir une encyclopédie. Donc, quelqu'un en Zambie ou au Pérou peut aller dans une bibliothèque publique, s'asseoir devant un ordinateur et avoir accès à un système mondial de connaissances qui a été produit par des collaborations horizontales. Ça, c'est une utopie réelle.
Alors, c'est un exemple très intéressant. On voit bien toutes les dimensions. Et je voudrais revenir sur l'une de ces dimensions que vous avez déjà mentionnée, qui est la possibilité dans ce type d'expérience d'articuler des initiatives individuelles de citoyens répartis sur l'ensemble de la planète avec des initiatives qui incombent à l'État. Parce que ce qui caractérise votre démarche, Eric Olin Wright, c'est de ne pas choisir, au fond, entre une tradition de la gauche anarchiste qui ne voudrait plus d'État et reposerait uniquement sur l'organisation d'initiatives individuelles, et puis une organisation de gauche très étatiste qui pense que seul l'État est à même de transformer dans le bon sens les choses. Vous pensez que des modes d'articulation entre ces deux traditions de pensée, mais aussi entre ces deux types d'expérimentation sont possibles, non seulement possibles, mais doivent être absolument inventés.
Vous avez identifié
l'idée centrale de mon cadre de transformation, qui est de réfléchir aux façons par lesquelles des initiatives d'en bas, de gens, de citoyens ordinaires, ce que je parle des stratégies interstitielles, des gens qui construisent un nouveau monde dans les espaces de l'actuel. Comment ces stratégies interstitielles peuvent être reliées aux changements dans les règles du jeu générées par l'État venant d'en haut. Et ce lien entre les deux, pour que ça puisse véritablement s'étendre, exige un changement dans les orientations politiques des partis de la gauche. Les partis de gauche doivent réfléchir à leur programme, non pas simplement en tant que solution pratique à un problème, mais comme des facilitateurs des initiatives venues d'en bas pour résoudre les problèmes. Il faut une façon de réfléchir à la façon dont l'État peut créer des espaces plus vastes où ces initiatives venant d'en bas puissent se développer pour créer ces pièces de Lego, si je peux me permettre, pour les construire à l'intérieur des structures sociales existantes, des superstructures. Si l'État était une machine intégrée capitalistique, ça ne serait pas possible. Et si l'économie était une structure homogène du capitalisme intégré, ça ne serait pas possible non plus. Mais ni l'État, ni l'économie n'ont ces caractères d'être un système totalitaire, pour utiliser un terme classique. Mais l'État et l'économie devraient être pensés en tant que quelque chose, un système ouvert et contradictoire de relations au sein desquels il y a beaucoup d'espace, beaucoup de points d'entrée pour construire des alternatives. Dans l'État, le point d'entrée, c'est la démocratie. Je crois que c'est le problème central. Démocratiser la démocratie devrait être au cœur du projet de gauche. Comment faire en sorte que l'État soit plus démocratique dans ses formes? Parce que ça ouvrirait les possibilités pour que l'État joue ce rôle plus étendu de facilitateur d'une économie plus démocratique.
Il y a un autre mot sur lequel je me suis arrêté en vous lisant, Eric Olin Wright, c'est le mot de corrosion. Il s'agit pour vous de corroder le capitalisme, non pas de le renverser comme si c'était possible, mais de le corroder morceau par morceau à travers des initiatives. Vous avez pris l'exemple de Wikipédia, mais il y en a d'autres. C'est ça l'objectif, l'horizon politique que vous essayez de proposer, de théoriser?
Exactement. J'utilise
le terme anglais d'érosion, mais corrosion fonctionne aussi. C'est une vue, si vous voulez, une façon de torpiller les choses aussi. Voilà ma façon de réfléchir à ce problème. Ce que nous appelons économie capitaliste, comme en France ou aux États-Unis, est en fait une combinaison extrêmement, un mélange très complexe de relations capitalistes et non capitalistes. Il y a beaucoup de formes non capitalistes d'activité économique qui prennent place au sein de toute activité et d'économie capitaliste. En bref, on dit l'économie est capitaliste parce que le capitalisme domine. Lorsque l'on dit le capitalisme domine, ce que ça signifie, c'est que c'est le capitalisme qui définit la superstructure là où différents éléments non capitalistes peuvent pénétrer et fournit les principes par lesquels les gens gagnent leur vie. D'accord. Alors, qu'est-ce que signifie l'érosion ou la corrosion du capitalisme? Ça signifie réduire la domination du capitalisme dans cet écosystème des relations, de torpiller sa domination, pas de le détruire en un bloc d'un seul coup unique, mais de corroder sa domination, c'est-à-dire élargir les espaces où les relations non capitalistiques peuvent se développer et s'épanouir. Et après tout, c'est la façon dont le capitalisme s'est développé au sein d'un monde non capitaliste, pré-capitaliste. Au sein du féodalisme européen, le capitalisme émerge dans ses formes primitives comme un capitalisme marchand au sein des villes et graduellement s'étend parce qu'il a le soutien de certains segments de l'élite féodale. Et en s'étendant, il corrode les fondations du féodalisme lui-même. Et à la fin du processus, ce qu'on appelle conventionnellement, du moins dans certains coins, la révolution bourgeoise, ces changements révolutionnaires se produisent à la fin du processus. Et les relations féodales se sont déjà détériorées. Elles ne sont plus la façon dominante où les activités économiques sont organisées. Moi, je vois ces processus de transformation et de transcendance du capitalisme de façon similaire. Nous construisons des alternatives là où c'est possible. Nous tentons d'adopter des nouvelles politiques grâce à la lutte pour étendre ces espaces. Ça ne se produira pas derrière le dos des acteurs. Ça doit se produire par une stratégie. Et lorsque ces espaces s'étendent, le capitalisme doit être rétréci. Et à la fin de ce processus, il n'y a pas de moment où on se réveille, allez, un jeudi matin, ça y est, il n'y a plus de capitalisme dominant. Il n'y a pas de moment où il y a un changement entre les deux processus. Non, c'est un processus graduel. Et à la fin du processus, il pourra toujours y avoir un espace stable pour le capitalisme. Par plaisanterie, je dis que le capitalisme entre adultes consentants, ça peut être bien si c'est fait dans le privé, si je suis pas obligé de regarder.
Alors vous parliez de l'ancien régime, on va y revenir avec Éric Vuillard dans un instant, à l'ancien régime et à la révolution qui l'a mis bas. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle du diagnostic aussi que vous posez sur l'état de la gauche après un 20e siècle qui fut compliqué à maints égards du fait de cet héritage révolutionnaire, de la pression mise par cette idée très très forte d'une rupture radicale possible, et on a vu les problèmes que cela posait, du fait aussi du côté réformiste, de ces compromis sans cesse de la gauche social-démocrate, dites-vous, avec le capitalisme. Bref, la gauche est en crise, la gauche telle qu'elle est incarnée dans les partis politiques, par exemple. Alors certes, on voit des initiatives, vous en parliez, mais ce qu'on voit peut-être moins, c'est le discours, le type de discours que les partis de gauche pourraient tenir, de discours général qui définirait un cadre, en fait, dans lequel ces différentes initiatives, que ce soit Wikipédia, les budgets participatifs ou toute autre chose, pourraient s'inscrire. Ce dont la gauche aurait peut-être besoin aujourd'hui, c'est d'être capable d'articuler ces différentes expériences autour de grands principes. Comment vous traitez cette question, Eric Olin-Wright?
Alors, il y a un problème endémique. It's nice. It makes me feel good that I slide into French.
Je me sens bien de pouvoir me placer un petit peu quelques mots en français, mais c'est mieux si je le dis en anglais. Je traduirai pas.
Michel Zlotowski qui traduit les propos d'Eric Olin-Wright.
There's an intrinsic tension within a left political party, which is the imperative to try to win elections,
de tenter de remporter les élections,
and a vision for social transformation.
Une vision de transformation sociale. Et l'échelle temporelle de ces deux entreprises sont totalement différentes. Si vous pensez à un changement à long terme, si vous engagez à un changement à long terme, il faut faire face au problème que l'exigence pour gagner dans une certaine conjoncture les élections n'ont rien à voir, ne sont pas cohérentes avec la construction d'un processus à long terme de changement. Ce qui s'est produit dans les années 1980 et les années 90, et je pense que ça change, mais ça continue encore, c'est que les termes du débat débat au moment des élections sont définis par la droite, même dans des circonstances où le centre-gauche était au pouvoir. Les termes de la compétition électorale ont été définis par la droite, et vraiment en des termes extrêmement précis. Je crois que les partis de gauche doivent rejeter ces conditions du débat et dire très clairement qu'ils ont une vision plus démocratique et plus solidaire de la société. Et ils doivent expliquer ce que ça signifie. Et ils doivent recadrer leur programme pour la conjoncture immédiate selon ces conditions-là. Donc il y a des réformes qui rendent la vie meilleure aux gens à court terme, cohérentes avec ce type d'agenda. C'est pas que l'agenda dit sacrifier l'aujourd'hui pour le demain. Non, il y a des aspects pour un agenda à long terme qui peuvent faire advenir l'avenir dans le présent. Et c'est ça qui doit être au sein du programme de la gauche.
If you take democracy seriously, it means
la démocratie au sérieux, ça veut dire qu'il faut vouloir être démocratique soi-même, ce qui signifie créer les conditions dans lesquelles les participations ont un sens au sein de votre propre processus interne politique et de votre participation aux projets que vous lancez sur le plan politique.
Vous insistez beaucoup sur ce mot démocratique qui doit être un marqueur très fort pour la gauche. Peut-être aussi parce que la gauche, du fait de l'expansion du libéralisme en économie, a eu tendance ces derniers temps à oublier qu'elle venait du libéralisme politique et qu'elle devait défendre les libertés et les droits politiques dans des périodes où les questions de sécurité remettent en cause les acquis, les libertés publiques des uns et des autres. Le rôle de la gauche, c'est aussi d'assumer cet héritage libéral-là qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle néolibéralisme.
Le
slogan de la Révolution française,
liberté, égalité, fraternité. I would replace fraternité with solidarité.
Moi, je remplacerais fraternité par solidarité.
Égalité, that works. It's still important.
L'égalité, ça marche. Ça reste important.
Liberté, I think we need to
rethink. Il faut la repenser. Liberté et démocratie doivent s'aligner l'une sur l'autre. Et pour comprendre que ces deux termes, liberté et démocratie, sont véritablement ancrés dans les mêmes valeurs. Et les valeurs peuvent être pensées comme étant l'autodétermination. Les gens doivent être capable de déterminer les conditions de leur propre vie. Lorsque les conditions nécessaires à la détermination de la situation de sa propre vie exigent de la coopération avec les autres, ça s'appelle de la démocratie. Quand déterminer les conditions de sa propre vie est un acte autonome, on l'appelle liberté. Mais ils sont tous les deux impliqués dans ce processus plus profond d'autodétermination individuelle et collective. La critique du capitalisme, c'est que c'est un déni de la liberté et c'est un déni de la démocratie, de l'autodétermination. L'idée de liberté, c'est un slogan fier de capitalisme, mais c'est un système de relations économiques qui dénie à la plupart des gens une véritable liberté, la capacité de mettre leur projet de vie en effet, en action. Le but d'une transformation, c'est que ces valeurs importantes, égalité, démocratie, liberté, solidarité, sont bloquées par les relations capitalistiques et on les débloquera par la transformation de l'économie au sein de laquelle nous vivons nos vies.
Liberté, égalité, fraternité, disiez-vous, on y revient tout de suite avec Éric Vuillard, mais avant ça, clin d'œil à la Russie d'aujourd'hui, 100 ans après cette révolution d'octobre. Poutine, c'est Randy Newman.
Regular fella, boot putting his hat on, hat size number 9. You saying Putin's getting big headed? Putin says just fine. He
your shirt off. You drive a lady crazy. When you take your shirt off, make me want to be a lady. It's the Putin girls.
Putin, if you put it, when you put it, where you put it. Putin, if you put it, when you put it next to me. Putin, if you put it, when you put it, where you put it. Putin, if you put it, when you put it next to me.
Putin hates the Putin girls, because he hates vulgarity. He loves his mother country, and he loves his family. He and his ex-wife, Ludmilla, ride along the shore of the beautiful new Russian Black Sea. Let's listen in. A great man is speaking.
La suite dans les idées, Sylvain Bruno.
Une suite dans les idées dans ce week-end spécial que France Culture consacre au centenaire de la révolution russe d'octobre. Occasion de revisiter d'autres révolutions et des perspectives révolutionnaires, ce qu'on vient de faire et qu'on va poursuivre avec le sociologue Eric Olin Wright, qui est mon invité aujourd'hui, et que l'on va continuer à faire sous forme d'un dialogue avec Éric Vuillard, qui est écrivain, bonjour.
Bonjour.
Et l'auteur, il y a un an aux éditions d'Actes Sud, de 14 juillet, un roman ou un récit littéraire sur cette révolution française, Éric Vuillard, raconté comme on la raconte rarement dans les livres d'histoire, du moins ceux que l'on utilise à l'école, et même si ces livres sont précieux et souvent bien faits. Vous avez voulu, depuis les rues des faubourgs en particulier, redonner vie à un peuple révolutionnaire. C'était ça l'origine de ce livre, Éric Vuillard?
C'était l'idée tout d'abord que les livres arrivent à un moment, disons, où ils sont possibles. C'est-à-dire quand un environnement à la fois social et politique rend possible à la fois l'idée du livre et un certain type d'écriture. Et là, concernant une émeute, évidemment, on est dans une émeute très particulière, puisque c'est une émeute qui est notre fête nationale. Mais tout de même, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, les processus politiques qui ont été évoqués, notamment la chute du mur de Berlin, enfin la fin du socialisme réel, rendaient presque impossible de parler de ce genre de choses, y compris même finalement du 14 juillet là. Un certain nombre de phénomènes, à la fois locaux, je pense, ont rendu possible à nouveau, ils m'ont donné donc l'idée de le faire, et qui était liée au fond à des lectures anciennes, à la fois celle de Michelet au départ, et puis d'une historiographie très récente, qui surtout rendait, je crois, possible quelque chose, c'est que cette historiographie nous montrait que le 14 juillet avait ceci de singulier, que c'est une émeute sans instigateur et sans meneur. Et que donc, on avait les moyens archivistiques de la raconter, mais que, disons, le récit étant une manière de faire qui avait disparu depuis la fin du 19e, au fond, nous n'avions pas cette histoire-là. Ce que nous avions comme récit du 14 juillet, c'était un récit principalement dans Michelet et chez les autres, des ambassades menées ce jour par les grands bourgeois de Paris, et par exemple, dans l'histoire de la Révolution de Michelet, pour le chapitre qui concerne le 14 juillet, la moitié du récit consiste à raconter le séjour que Thuriot de la Rosière en ambassade a passé à l'intérieur de la Bastille. Et on voit bien que Michelet met en scène, au fond, quelque chose qui est, on a d'un côté les représentants du peuple qui ont la parole, il y a des petits dialogues dans le texte, et de l'autre, le peuple qui pousse une acclamation, c'est au fond une mise en scène du suffrage universel.
Alors vous êtes intéressé évidemment par l'événement, Éric Vuillard. Vous ne l'êtes pas que dans ce livre-là, vous l'êtes aussi dans L'Ordre du Jour, par exemple, qui a paru après, dans votre travail de manière générale. Et on comprend bien pourquoi le romancier s'intéresse à l'événement. L'historien aussi, bien évidemment. Le sociologue, lui, celui qu'on a entendu, Eric Olin Wright, vient nous dire au fond, oui, l'événement, mais... Cessons de penser qu'il y aurait nécessairement toujours l'événement qui fait basculer les choses. Il faut aussi s'attacher à ce qui se trouve dans les interstices, ce qui est peut-être davantage de l'ordre de la routine quotidienne, au fond. Comment vous gérez cette tension dans votre travail d'écrivain, Éric Vuillard ?
Je pense en tout cas pour ma part que l'événement révolutionnaire en soi est une chose imprédictible, que c'est à la fois le nouage d'un effet de structure qui est la structure inégalitaire des sociétés en général, et évidemment d'une inégalité qui s'aggrave, ce qui d'ailleurs est notre cas semble-t-il, enfin c'est ce que disent les économistes et les sociologues, ce qui fait qu'au fond après c'est un élément contingent qui déclenche les révolutions, c'est en général un événement d'ailleurs malheureux mais pas toujours, enfin en tout cas pas forcément dramatique, on a par exemple, on se souvient des banquets patriotiques, on les supprime, et puis tout à coup, ou alors les ateliers nationaux sont supprimés, pour prendre un exemple célèbre, et puis brusquement les gens descendent dans la rue, et donc on a un événement insurrectionnel. Donc je crois que c'est une percolation très rapide. Pour donner des exemples concrets, en 1936, je crois qu'à peu près en mars 36, on a 850 000 personnes qui sont à la CGT. En décembre, on en a 4,5 millions. Donc des phénomènes de percolation politique et de cristallisation peuvent être extrêmement rapides. Un autre exemple, il y a la Révolution française. Rossignol, qui est un personnage qui deviendra général, raconte dans ses mémoires que quelques jours avant le 14 juillet, tout le processus des états généraux lui était totalement étranger. Et c'est entendant hurler dans la rue « Vive le tiers-état !» et se faisant interpeller par un groupe donc de manifestants, en quelque sorte, que tout à coup il s'est politisé et qu'il a passé plusieurs jours dans les cabarets et qu'ensuite donc il est au 14 juillet à la Bastille. Donc je crois qu'en tout cas on ne peut pas savoir quand ce genre de choses se produiront et que, de toute façon, le périmètre de la démocratie vient toujours, alors effectivement, de démarches qui peuvent être hors de l'État, mais aussi de la rue elle-même. C'est lorsque on a un rapport de force, vous parliez de lutte, que tout à coup aussi un certain nombre de choses sont possibles. Et juste pour finir sur ce point, vous parlez beaucoup de démocratie, je pense que c'est à la fois... une culture américaine qui fait qu'on insiste davantage sans doute sur ce point que sur l'égalité ou en Europe ou en France en tout cas, auquel on est je crois très sensible, mais aussi un point peut-être, je ne sais pas, stratégique puisque effectivement après la fin du socialisme réel, la démocratie reste un langage que l'on peut encore employer. Donc démocratiser, comme vous le disiez, la démocratie est une chose que finalement même les gens modérés peuvent entendre. Le problème qui est le nôtre je crois aujourd'hui, c'est que au fond, là, on connaît tous la phrase de Churchill qui est que la démocratie serait le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Et on voit que aujourd'hui, cette phrase, dans le contexte actuel, on n'entend plus de la même manière qu'il y a 20 ans. La composante ironique de cette phrase ressort et quelque chose défaille. Est-ce bien sûr que ce soit le meilleur des systèmes? Peut-être qu'en le démocratisant, comme vous le disiez, effectivement, ce serait le meilleur. Mais donc, je crois qu'on est dans une, de ce point de vue-là, une crise profonde.
Eric Olin-Wright, sur ce point de la démocratie sur lequel, au fond, vous interroge Éric Vuillard.
So, democracy is a complicated idea.
La démocratie est une idée complexe. Je crois qu'il y a une non-linéarité dans la démocratie. Une démocratie n'est pas moins, une démocratie légère n'est pas moins qu'une démocratie profonde. La démocratie change de caractère en étant plus démocratique. Plus, une des conséquences du néolibéralisme, c'était une réduction de la démocratie absolument partout. Une usure de la démocratie. Ça ne peut plus faire la différence. Et je crois que c'est la raison pour laquelle la démocratie elle-même a moins de crédibilité. Elle est moins démocratique. Le projet de démocratiser la démocratie, c'est le fait de transformer la démocratie en véritable démocratie, plutôt que par opposition à une démocratie symbolique. Ce processus de désintégration des valeurs démocratiques est beaucoup plus avancé aux États-Unis, je pense, qu'il ne l'est en France. Mais c'est partout. Ce n'est pas quelque chose d'unique à la situation américaine. Approfondir la démocratie est un projet de l'activisme d'en bas pour créer de nouveaux espaces démocratiques dans par exemple dans des arènes municipales, et aussi un projet venant d'en haut, changer la façon dont les grandes institutions sont organisées. Il y a beaucoup de suggestions intéressantes qui sont débattues autour de ces problèmes.
Alors, les révolutions, en tous les cas la révolution d'octobre dont on parlait, la révolution française dont on parlait aussi, ce sont historiquement des moments rares où le système de classe sociale a été radicalement transformé. Vous avez beaucoup travaillé sur les classes sociales, Eric Olin-Wright, avant ce livre, dans d'autres travaux. Est-ce qu'on peut, pour vous, caractériser ces moments de révolution avec un R majuscule comme des moments où, en une nuit pratiquement, je pense au 4 août, mais on change de système de classe?
Class relations are power relations.
Les relations de classe sont des relations de pouvoir. C'est exactement ce dont on parle. Relations de classe, c'est une façon d'organiser le pouvoir par-dessus les structures économiques d'une société. Les moments révolutionnaires qui se sont produits détruisent en fait les relations de pouvoir existantes. Et de ce point de vue-là, l'aspect destructeur de la révolution est une transformation du système de classe. La question c'est, quel est le moment constructif des classes sociales? Qu'est-ce qui remplace? Quelles sont les nouvelles relations de classe qui sont mises en place dans le contexte de la Révolution française et de la Révolution russe? Les aspirations de la Révolution russe étaient de remplacer une classe une structure de classe qui était basée sur l'exploitation et la domination par quelque chose d'autre qui serait de plus en plus égalitaire par rapport au pouvoir. C'est la raison pour laquelle l'expression, très vieille mode, c'est la dictature du prolétariat, c'est l'annonce d'un type différent de la distribution du pouvoir, où les gens ordinaires, ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Mais ça ne s'est pas produit. On ne peut pas construire ce nouveau système de relations de classe sur la base du processus qui avait été lancé.
Eric Vuillard, moi j'ai eu ce sentiment en vous lisant aussi que les classes sociales, vous avez voulu les mettre en scène, les figurer, dès l'ouverture même de ce 14 juillet.
Oui, parce qu'il y a tout un discours qui est tout à fait, enfin qui est un discours, disons, marxiste standard, qui est que la révolution française serait une révolution bourgeoise, ce qui est vrai d'ailleurs partiellement, mais c'est surtout c'est un processus long. C'est un processus au fond où s'adosse deux mouvements, un mouvement insurrectionnel qui a lieu dans la rue, et puis un mouvement qui a lieu en assemblée, donc l'assemblée, la constituante, la convention, et puis les sections qui sont justement elles au carrefour à la fois, disons, de mouvements populaires et de quelque chose qui serait une forme de débat institutionnalisé. Donc c'est ça la Révolution française, et on oublie souvent précisément cette composante populaire, puisque tout commence au fond au Faubourg Saint-Antoine et avec le Faubourg Saint-Marcel ensuite. Et il y a donc tout d'abord quelque chose de logique et de premier dans ces révoltes, et surtout elles vont faire pression sur le pouvoir constamment, c'est-à-dire un certain nombre de grands événements d'assemblée auront lieu après le 4 août, c'est après le 14 juillet, la proclamation de la République intervient après les massacres de septembre et le 10 août, donc on voit bien que c'est une dialectique, au fond, entre les deux. Et ceci me semblait important aujourd'hui, dans la mesure où on voit bien qu'il y a tout d'abord une grande hostilité qui est manifestée en général à l'égard, disons, des mouvements populaires, et des mouvements de type insurrectionnel. Même des manifestations, d'ailleurs, il y a des répressions. La répression est de plus en plus forte. Et dans l'esprit des gens, d'ailleurs, on entend beaucoup parler des casseurs. Enfin, il y a tout un vocabulaire qui manifeste cette hostilité. Et puis, il y a une hostilité plus général à l'égard des révolutions, et notamment de celle d'octobre. Et je crois que, au fond, c'est la même chose qui est visée. C'est-à-dire, la structure élémentaire, ce sont les rapports de propriété, c'est l'inégalité qui structure tout. Et la révolution d'octobre est la révolution qui a visé le dispositif en son centre. Elle est donc haïe, honnie plus que les autres, et puis les mouvements insurrectionnels sont, en général, ce qui fait advenir une révolution. Donc, évidemment, l'ordre présent les honnie également.
Haï, honni, mais commémoré ce week-end sur l'antenne de France Culture, cette révolution d'octobre. Merci Eric Vuillard d'avoir participé à cette deuxième partie de l'émission, d'avoir dialogué avec Eric Colin Wright, que je remercie également. Je rappelle le titre de votre livre, Eric Colin Wright, première fois que vous êtes traduit en français. Il était temps, Utopie réelle, cette édition La Découverte. On trouve la référence bibliographique sur la page de La Suite dans les idées. Et puis, on trouvera également la bibliographie de quelques-uns des titres d'Éric Vuillard, notamment 14 juillet, ou un livre encore plus récent, L'Ordre du Jour, qui s'intéresse également à des événements politiques. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production. Catherine Donnet, à la technique. Bernard Laniel, à la réalisation. Anne-Laure Chanel. Et dans quelques instants, vous retrouvez la première partie d'une histoire particulière sur l'antenne de France Culture.